5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 18 avril. Bonjour Céline Galman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, le défi de la reconstruction est lancé et se pose la question de la sécurité des autres monuments français, notamment Saint-Sulpice. Aujourd'hui, les pompiers sont à l'honneur. Ils sont reçus par Emmanuel Macron à la mi-journée. Dans l'actualité également, ce terrible drame à Madère, au Portugal. 29 personnes sont mortes après un accident de car. Et puis en football, un match de folie hier soir entre Manchester City et Tottenham en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est Tottenham qui s'est finalement qualifié après une fin de match invraisemblable. Jérôme Lacroix y revient dans son journal des sports.
Europe 1.
À la mi-journée, donc, Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée les héros du moment, les pompiers qui ont lutté pendant des heures pour sauver Notre-Dame. Cet après-midi à 16h15, précisément, un hommage leur sera rendu. Cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Hier soir, à l'église Saint-Sulpice, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a célébré la première messe depuis l'incendie. Brigitte Macron, Christophe Castaner ou encore Anne Hidalgo étaient présents. Saint-Sulpice, qui va en quelque sorte remplacer le temps des travaux Notre-Dame, se pose évidemment la question des dispositifs de sécurité pour tous les édifices et notamment celui-ci où se déroulent les festivités de la Semaine Sainte comme la messe de Pâques dimanche. Justin Morin.
À défaut de pouvoir visiter Notre-Dame, de nombreux touristes se sont tournés vers Saint-Sulpice. Clément Savary, jeune guide bénévole, en accueille de plus en plus dans cette église qui a vu passer Fénelon et Bossuet. Il en connaît les moindres recoins et les moindres faiblesses.
Bon, les bougies, on garde toujours un œil, mais ce qui met le feu bien souvent, c'est plus les fils électriques qui sont sous les planchers, dans les charpentes, dans les murs. Et là, on les voit pas. Vous n'imaginez pas, c'est encombré de fils, d'interrupteurs, de lumières, de lampes, d'ampoules antédiluviennes. Le risque zéro n'existe pas.
Pas de panique pour autant, le dispositif de sécurité anti-incendie est aux normes. Christophe Salleron, le régisseur, confirme qu'il est même vérifié chaque année, mais il reconnaît que dans ces vieux édifices, l'état des lieux souhaité par le ministère de la Culture est loin d'être superflu.
Un audit est toujours le bienvenu. Par exemple, notre charpente peut brûler, on n'a pas de détecteur, mais ça fait 300 ans qu'elle est là. Et donc il n'y a pas de raison pour qu'elle brûle. Mais nous n'avons pas de détecteur de fumée, nous n'avons pas de ligne électrique aux normes. Il y a quand même des progrès à faire en termes d'entretien. Et quand vous parlez d'une église, ce sont des budgets qui sont colossaux.
Et avec l'augmentation de la fréquentation, il envisage aussi de débloquer certaines portes condamnées depuis bien longtemps. Mais là aussi, il y aura un coût.
Justin Morin pour Europe 1. Hier soir, lors d'une réunion de mobilisation pour organiser la reconstruction de Notre-Dame, plusieurs intervenants ont jugé réalisable l'objectif des 5 ans pour ouvrir Notre-Dame sur la manière de reconstruire la flèche. La question est ouverte, mais il y aura peut-être un projet architectural.
Concernant les dons, hier, le gouvernement a annoncé un soutien fiscal et un projet de loi pour une souscription nationale.
Oui, les dons qui seront défiscalisés à hauteur de 75% pour les particuliers. D'habitude, c'est moins, 66%. Un avantage qui inquiète certaines associations qui ne bénéficient pas de ce dispositif. Cela va-t-il changer la manière de donner des Français, Maud Descamps?
Sur ses 1700 euros de retraite, Monique verse chaque mois 200 euros pour des œuvres de charité. Donner pour la reconstruction de Notre-Dame, c'est une évidence. Mais attention, les œuvres qu'elle finance depuis des années restent prioritaires.
Je donne déjà aux orphelins d'Auteuil. Mais je veux quand même participer pour Notre-Dame. Oui. Mais c'est exceptionnel.
Olivier n'a pas pour habitude de donner, mais le dispositif annoncé par Édouard Philippe l'a fait réfléchir.
J'avoue que même sans défiscalisation, c'était tentant. Avec ce geste particulier, c'est effectivement très très incitatif.
Les Français donnent en moyenne 500 euros par an, une tendance à la baisse. Pour Florent Guéguin de la Fédération des associations de solidarité, le dispositif fiscal pour Notre-Dame risque d'accentuer le phénomène.
On a constaté sur 2018 une baisse de l'ordre de 20% des dons. Donc il ne faudrait pas que ces mesures fiscales se retournent au détriment des causes sociales et humanitaires.
Mais certaines associations comme la Fondation Abbé Pierre estiment que l'élan de générosité autour de Notre-Dame bénéficiera à l'ensemble des associations françaises.
Maud Descamps pour Europe 1.
Dans l'actualité également, cet accident meurtrier au Portugal.
29 personnes sont mortes après un accident de car sur l'île de Madère, principalement des touristes allemands qui se trouvaient dans le bus. Deux personnes ont aussi été fauchées par le car. Le véhicule aurait effectué plusieurs tonneaux. Après avoir fait une sortie de route, on compte également une vingtaine de blessés. Retour en France, des dealers qui organisent une tombola en direct sur les réseaux sociaux pour récompenser leurs fidèles clients. Invraisemblable, à la clé, le premier prix, une console de jeu. Ça s'est passé dans le quartier du Mistral à Grenoble. Rémi Pierre.
La vidéo est assez saisissante. On y voit un homme masqué, éganté et une voix off maquillée qui commente le tirage au sort.
Et le numéro gagnant est le
Le gagnant se voit invité à venir récupérer son lot, une PS4. Comme les autres acheteurs d'herbe ou de hashish, il s'est vu attribuer un ticket numéroté. Une pratique hallucinante, reconnaît le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant.
C'est étonnant, ça peut même être cocasse, mais en tout cas, c'est pas sympathique. Parce que ça banalise la drogue, ça banalise le cannabis, ça fait croire que c'est un produit comme les autres, sur lequel on peut faire une tombola, comme on voit des tombolas au supermarché le jour de l'anniversaire du supermarché. Ces pratiques sont évidemment illégales. On reste pas les bras croisés à les regarder faire.
Et du côté des policiers, on digère également assez mal cette vidéo. Yannick Biancheri du syndicat Unité SGP Police.
Ça me désole, ce sentiment d'impunité, de pouvoir faire tout comme ils le souhaitent, sans avoir peur de la justice ou de la police. Maintenant, ils n'hésitent plus à se servir des réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs marchandises et de leurs points de deal, de leurs drogues.
Et sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, ce sont des offres d'emploi qui ont été publiées pour des choufs, des guetteurs, profils recherchés, jeunes, physionomistes et respectueux du client. À Grenoble, Rémi Pierre, Europe.
Un policier du centre de rétention administrative de Metz s'est suicidé dans la nuit de lundi à mardi avec son arme de service. Il avait 42 ans, était père d'un enfant de 4 ans. Il s'agit du 27e suicide d'un policier depuis le début de l'année en France. Garde à vue levée pour le pilote de l'hélicoptère pris en otage par Redouane Faïd et sa belle-fille ainsi qu'un membre de leur entourage. Aucune charge retenue contre eux à ce stade.
Dans deux mois, Céline, c'est
le bac.
Et c'est le moment de s'y mettre sérieusement.
17 juin, première épreuve avec la philo pour le bac général. Relire ou faire ses fiches, si ce n'est pas déjà fait. Mais pas n'importe où, nous dit Virginie Salmen, le lieu où l'on révise est primordial pour se concentrer.
Étudier dans sa chambre, seul, en silence, plus personne ne fait ça, à entendre ses trois copines de 18 ans, élèves de terminale, Jade, Lara et Elma. Elles vont soit à la bibliothèque, soit l'une chez l'autre, mais toujours en groupe.
Être tout seul, c'est bien, mais au bout d'un moment, on tourne en rond, on a relu le cours et tout, on peut le rester à personne. Être en groupe, c'est mieux. Genre.
Je peux pas travailler toute seule parce que j'ai la tentation du téléphone justement et ça me perturbe, du coup j'arrive pas à me concentrer et je préfère travailler en groupe pour mieux comprendre.
Pareil parce qu'il y a la télé, la famille et tout chez nous, je préfère bibliothèque.
Donc réviser ensemble, en groupe de 3, 4, 5, souvent avec des amis plutôt que de simples camarades de classe, ça s'explique par le besoin qu'ont les jeunes de cette génération d'être rassurés. Ils ont reçu une éducation non pas collective mais individualiste, nous dit la psychopédagogue Brigitte Pro, et ils souffrent de solitude.
Ils en parlent énormément et du coup ils ont un besoin de collectif immense comme jamais auparavant.
Tous les lycéens qu'elle accompagne lui disent aussi qu'ils ont beaucoup besoin de leurs parents dans cette période de révision, pas forcément toujours derrière leur dos, mais qu'ils soient là quand ils ont besoin d'aide.
Virginie Salmen pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, avec qui ce n'est pas étonnant qu'on fricote. On a tant de points communs. On aime les fictions de qualité. J'adorais cette série. Toi aussi ?
Grave.
Mais vient un moment de la soirée où, fatalement, ouais, bah oui, on éteint la télé pour se livrer à d'autres activités. D'ailleurs, Céline, comment vous m'avez trouvé hier soir ?
Impuissant.
Ingrate ! Sortez de ce studio.
Europe 1. 5h, 7h,
c'est vache quand même. À suivre.